Shalom les coulam, shalom, shalom. Voilà, désolé pour ce petit retard. J'avais un problème pour trouver un endroit de connexion comme il faut sans être dérangé. Donc voilà, je suis là, vous êtes là. Juste faites-moi signe pour me dire que vous êtes bien là. Et comme ça, on peut commencer. Ouais, petit signe. Faites-moi un tout petit signe. Tout est OK, c'est parfait. Et ben alors on y va. Erev Tov les Koulam, mais donc on est parti pour notre étude. Et oui, on revient après. Bah, on a eu plein, plein, plein de péripéties, puisqu'on a parlé de Pessah, ensuite de Homer, ensuite de Shavuot. Qu'il on a eu plein, plein, plein de choses à parler. Et maintenant, eh bien, on va revenir dans notre fil conducteur de la paracha de Shavuot, c'est ce qu'on avait fait il y a très très longtemps. Mais en fait, vous allez voir qu'on va se spécialiser sur un petit sujet de notre paracha énorme. Je dis énorme parce que c'est peut-être une des parachiotes qui a le plus grand nombre de sujets traités dans une seule paracha. Énormément de sujets. Alors, ce soir, je ne sais pas si on va réussir à tous les évoquer. Ce soir, je voudrais qu'on parle d'un sujet en particulier. J'ai appelé ce cours « Vegan contre carnivore ». Eh oui, eh oui, et donc on ne peut pas ne pas commencer par une petite histoire. L'année dernière, on a commencé avec mon fils à étudier la Mishnah, tous les deux à la maison. Il avait donc 8 ans, c'était le moment de commencer. Et lorsqu'on a terminé sa première Maseret, son premier traité de Mishnah, en l'occurrence Maseret Berachot, eh bien, je lui ai dit, on ne termine pas une Mishnah comme ça sans marquer le coup. Attends, c'est pas stam de terminer la Mishnah. Donc, il est évident qu'on doit faire un Sioum. Ah, un Sioum, ça c'est normal. Donc, je lui ai dit, c'est toi qui choisis le resto et on y va. Et on va se faire plaisir. Mon fils n'a pas vraiment hésité très longtemps. Il était très emballé par l'idée. Et donc, il a choisi que pour terminer et marquer le coup qu'on venait de terminer un traité de la Mishnah, eh ben, le mieux, c'était d'aller se faire un burger. Donc, eh ben, on a été se faire un burger. On a été se faire un burger, je ne donnerai pas de marque, mais c'est un burger qui fait aussi le bar. Voilà, j'ai tout dit, j'ai rien dit. En tout cas, on a été se faire un burger. Maintenant, sur la rue Emek Refaim, donc c'est là qu'on a été manger notre burger, pour faire notre sioum, Seoudat Mitzvah, évidemment, eh bien, juste devant l'entrée du burger, se tenaient trois personnages. Trois personnages très bizarres, puisque ils étaient habillés de noir, avec un t-shirt noir, avec des écritures en blanc et des taches de sang sur les écritures. Il s'agissait évidemment de militants pour le véganisme. Et donc, ils se baladaient devant, évidemment, le restaurant de burgers, avec des tracts et des pétitions avec ce slogan « Bassar Zeretzach ». La viande, c'est du meurtre. Mon fils ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Il dit « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont là ?» Je lui dis « Écoute, je ne sais pas, on va voir. » Et donc, il nous explique que rentrer dans ce restaurant, c'est commettre et participer à un meurtre de masse. Je dis « Ah bon? C'est fantastique. » Bon, j'avoue que j'ai été un petit peu pas sympa parce qu'ils m'ont énervé. Qu'est-ce qui nous arrête au moment où on rentre dans le restaurant? Non, mais enfin, franchement. Bon, en tout cas, je les ai écoutés parler et j'ai vu qu'ils avaient une pétition. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous avez un stylo? Et ils m'ont dit oui, ils m'ont donné. J'ai dit, est-ce que vous avez un flyer, un prospectus? Ils m'ont dit oui, où on voit un animal barré, machin, avec en marqué en dessous, Bassard. Zeretzar. Et là, avec le stylo, j'ai marqué à côté du Z, de Bassar Zeretzar, j'ai fait un V, tu sais, pour rajouter un mot que tu as oublié, et j'ai marqué Bassar Zé V, et j'ai marqué Taïm. Bassar Zé Taïm Retzar. Ce qui veut dire en bon français, quand eux ils disaient la viande c'est du meurtre, eh bien moi j'ai dit la viande c'est vachement bon. Et en fait, c'est de ça qu'on va parler. C'est de cela qu'on va parler ce soir. Est-ce que, d'après le judaïsme, c'est bécéder de se faire un burger, de se faire une entrecôte, de se faire un chorizo, ou est-ce qu'il s'agit ici d'un abaissement moral absolument affligeant? Et c'est une grande question. Pourquoi c'est une grande question? Eh bien, parce que c'est la question qui est traitée dans notre paracha. Dans notre paracha, on arrive à un moment donné où les Béné Israël viennent voir Moshe. Alors, je prends le verset. Je vais vous dire exactement la référence. Une seconde. Voilà. Donc, paracha de Baalotecha, évidemment. Et nous sommes dans le... Seconde. Voilà. Voilà. Nous sommes donc dans le Hamishi, la Aliyah numéro 5 de la Paracha. Et voilà. On nous dit. Donc on est au chapitre Yud Aleph. Yud Aleph, verset Dalet. Donc chapitre 11, verset 4. Et là, la Torah nous dit. והספסוף אשר בקרבו יתהוו תאווה וישקו וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. Les béné Israël demandent de la viande. Je rappelle qu'on vient de sortir d'Égypte et que pour l'instant on mange de la manne. Eh oui, il y a la manne qui tombe tous les jours et c'est ça qu'on mange. Je rappelle également que la manne, elle peut avoir goût viande si on veut, c'est pas un problème. Mais là, ils disent « Dai, on veut de la viande. » Maintenant, deux secondes. On va revenir évidemment sur le verset. Mais quelle est la réaction de Moshe? Avant de voir la réaction de Moshe dans deux secondes, je voulais simplement poser une petite question. C'est pas la première fois et ça sera pas la dernière. Bah, qu'on est un petit peu... qu'on se plaint. Et mieux que ça, c'est pas la première fois qu'on va faire une avéra. Je veux dire... Quand tu parles de désert et faute, bah pour moi, ce qui me vient en premier, c'est les explorateurs qui ont refusé de rentrer en Israël, le veau d'or. Bah, dans ces deux cas, Moshe, il n'était pas content, mais il a géré. Il a géré. Il savait très bien ce qu'il fallait faire. Il n'a pas perdu du tout les pédales. Là, il demande de la viande. On va y revenir. Mais Moshe a une réponse absolument incroyable. Qu'est-ce que dit Moshe ? Eh bien, je prends cette fois le verset Yud Aleph, le verset 11 du chapitre 11, nous dit « Vayomer Moshe el Hashem, lama reot ala avdecha velama lo matzati chen beinecha lasum et masa kol ha'am hazeh elai, he anochi eriti et ha'am hazeh, et kol ha'am hazeh, im anochi eritiu, ki tomar elai, isayu bechikecha, kasher isa omen et yonek, al ha'adama, asher nishbat ala avotav, me'ain li basar latet lechol ha'am hazeh, ki yivku alai lemor, תנה לנו בשר ואוכלה. לא אוכל אנוכי לבדי לעשות כל העם הזה, כי כבד ממני. ואם ככה אתה עושה לי, אורגני נהרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל ירא ברעתי. Je reviendrai sur les versets, mais en substance, Moshe dit, il demande de la viande, tue-moi. Moshe dit à Dieu, tue-moi. Moshe n'arrive pas à gérer la demande des Bnei Israël de manger de la viande. Et donc, la question maintenant qu'il va falloir se poser, c'est « Zé Bessader de manger de la viande, Zé Lo Bessader de manger de la viande. » Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Et en quoi Moshe a tellement perdu les pédales à ce moment-là? Alors, je voudrais revenir aux origines. Avant de reparler des versets, je voudrais revenir aux origines. Parce que la question de savoir est-ce qu'on a le droit de manger de la viande, eh bien, finalement, quand on se pose deux secondes cette question, eh bien, Adam Harishon, on ne lui a pas permis de manger de la viande. La viande va être consommable à partir de Noach. Le Ramban nous dira que c'est un tribut que payent les animaux à Noach pour qu'il les ait sauvés, enfin parce qu'il les a sauvés. Mais ça ne nous explique pas. Ça ne nous explique pas. Alors d'autres explications dans le Talmud vont nous dire que c'est parce que il fallait tourner le Yetzer, la pulsion de verser le sang, non pas vers les hommes. Mais cette pulsion, elle est là, donc tourne-la vers les animaux. Mais dans les deux cas, que ce soit un tribut que payent les animaux, la gent animale, à l'homme, parce qu'on les a sauvés, ou que ce soit parce que vaut mieux qu'on tue une vache plutôt qu'on tue un homme, c'est quand même très, très, très pessimiste, cette histoire. Et on se dit qu'évidemment, à ce moment-là, qu'il vaut mieux bah, ne pas consommer de viande. Il vaut mieux se contrôler à ce moment-là. D'un autre côté, la Torah, dans le livre de Vaïkra, va être plein de korbanot, où il devient idéal de manger de la viande, évidemment. Alors, qui a raison? Alors, Botaï, la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. D'après la Torah, dans le livre de Vaïkra, où on nous parle de manger donc de la viande, la seule viande qui est autorisée, c'est la viande de Corban. Tu n'as pas le droit, d'après le livre de Vaïkra, d'aller te faire un petit steak dans un petit resto. Interdit complètement. J'irai même jusque-là, plus loin, en disant que la Torah nous dira même que si quelqu'un fait ça, Dam Yechashev Laishaou, Dam Shafar. Ça, on considérera ça comme un meurtre. Quelqu'un qui se fait un sandwich avec des saucisses, un hot dog, mais pas au Beth Amikdash, ça sera considéré comme un meurtre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rabotai, d'après le judaïsme, eh bien, il faut bien savoir que il y a une échelle de valeur dans les créatures. Dieu a créé le monde, bien sûr, mais il y a une échelle de valeur. Tout n'est pas égal dans la création. D'après le judaïsme, il y a ce qu'on appelle datsram. En français, domem, tsomeach, chai, medaber. Quatre dimensions où de plus en plus la vitalité pénètre la créature en question. Tout d'abord, il y a domem, le minéral. Le sel, l'eau, la pierre. Tout ça, c'est du minéral. Eh bien, le minéral, c'est vivant, vadaï. Mais c'est un vivant quand même très peu vivant. C'est un vivant statique. C'est un vivant qui n'évolue pas. Donc, il est vivant. Oui, il y a des atomes, il y a de la vie, il y a ce que tu veux. Mais c'est quand même, genre, eh ben là, azote. Ce que tu vas mettre sur la tombe de quelqu'un dans le judaïsme, c'est quand même une pierre. Donc, vivant, vivant, oui, mais quand même très, très peu vivant. Après, on s'élève à l'état de tsomer. Tsomer, le végétal, ah ben, le végétal, c'est quand même beaucoup plus vivant qu'une pierre. Eh oui! Donc, le végétal grandit, pousse, va se nourrir, alors qu'on ne voit pas la pierre se nourrir de quoi que ce soit. Le végétal va se nourrir et va grandir. Donc, c'est beaucoup plus vivant que le minéral. Et après, on passe à un autre niveau de vivant, chai, le règne animal, dans toutes ses formes, hein, que ce soit les poissons, que ce soit les oiseaux, les animaux sur Terre, l'homme chané. Chai. Chai, comme son nom l'indique, ou chai. C'est-à-dire que non seulement il mange, il grandit, mais il bouge. Par opposition au tsomer, au végétal qui ne bouge pas, lui, il bouge. Il se meut. Oui, c'est pas parce que je parle de vaches, hein, qui font meut. Mais il se meut dans ce monde. Et donc, ça bouge, ça vit, c'est plein de vitalité. Mais c'est une vitalité qui n'est que naturelle. C'est-à-dire, si on veut reprendre le langage de la chassidoute, c'est une vitalité qui n'a que sa nefesh habehemit. Et ensuite, nous arrivons au quatrième palier, qui s'appelle l'homme, Amedaber, celui qui parle, celui qui est capable d'être un animal amélioré, bien sûr, Homo sapiens sapiens, mais également qui est capable de faire usage de sa neshama. Entre parenthèses, je parle d'Homo sapiens sapiens. Mon fils a voulu faire un exposé dans sa classe, un exposé vite fait comme ça, sur le Big Bang. Il a vu ça, on en a parlé tous les deux. J'ai montré une vidéo des frères Bogdanov. Donc, ça l'a évidemment émerveillé. Et donc, il a voulu en parler. Et sa professeure a répondu que non, elle ne le laisserait pas faire l'exposé parce qu'elle ne croit pas que ce soit vraiment passé. Et elle pense que c'est des bêtises et que donc, elle ne laissera pas un élève se répandre en bêtises. Donc, il m'a raconté ça. Je te raconte pas le mail. Je te raconte pas le mail. Oui, elle s'y attendait pas, hein, la prof. Parce que je lui ai dit, donc j'ai entendu dire que vous ne croyez pas donc au Big Bang. Excusez-moi, mais je vous croyais religieuse. Je vous croyais éprise de Torah. Donc je ne comprends pas comment vous pouvez sciemment rejeter les enseignements du Rachar Hirsch, du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, les enseignements du Malbim, les enseignements du Baal HaTiferet Israël, les enseignements du Rav Kook, en citant comme ça une dizaine de noms de rabbanim qui disent qu'il n'y a aucun problème avec cette théorie et que tout va bien. Bon, elle ne savait pas trop comment je lui ai dit. C'est pas possible qu'il y ait un vent d'apicorsoute dans l'école. Bon, je te rassure, il n'y a pas eu de réponse, hein, évidemment. Mais en tout cas, la question est la suivante. Est-ce que ces différenciations sont seulement des différenciations, ces quatre paliers, sont seulement des paliers, on va dire, d'ordre naturel ou également d'ordre moral? Et vous comprenez tout de suite que, évidemment, que c'est également moral. Il n'y a pas de morale dans le niveau, dans la dimension du minéral, pas dans le végétal et pas dans l'animal. Un animal n'est pas moral. Un lion qui tue, c'est ni méchant ni bien. Il a faim, il mange, point. La dimension de la morale, qui est la base du dévoilement de Dieu, eh bien, c'est la dimension de l'homme. Donc, il est évident que l'homme est au-dessus de l'animal. N'en déplaise aux gens qui sont aujourd'hui, qui se considèrent antispécistes. Ils disent non, on vit tous sur la même planète et nous sommes pas mieux qu'une pieuvre. Si, on est mieux qu'une pieuvre, on est mieux qu'une vache. Parce que la vache, elle dit meuh. Et moi, je dis Ashrei Yoshvei Veterra. Je suis mieux qu'une vache, malasot. Et toi aussi, tu es mieux qu'une vache. Et ça, pour l'instant, ça n'a rien à voir avec juif ou pas juif. L'homme, en tant qu'homme, eh bien, il est bien au-delà de l'animal. Aval, nous dit la Torah. L'homme, il a aussi le libre arbitre. Et il peut décider de se comporter comme un animal. Il peut décider que sa nefesh haéloïde, eh bien, il ne la laissera pas s'exprimer et qu'il n'est que donc un animal amélioré. À ce moment-là, nous dit la Torah, assour l'Echol Bassar dans ces conditions. Pourquoi? Mais parce que si tu te considères comme un animal, mais tu n'as pas le droit de prendre la vie d'un autre animal. Qui es-tu pour tuer quelqu'un? Le Rav Tzvi Yehuda Kouk disait la chose suivante. Il disait, comment ça se fait que quand on fait la shrita à un animal, eh bien, il crie. Et quand on prend une carotte du sol, elle crie pas. Est-ce que c'est qu'un problème de corde vocale? Il disait non. La carotte, elle sait que quoi qu'il arrive, elle va s'élever. La science humaine est un animal de la viande, sauf ça l'offre de Dieu. C'est le cas de toutes les situations. Exactement. Tu as totalement raison, Bernard. C'est-à-dire que c'est pas là. Bon, moi, je suis désolé, je me focalise un petit peu sur le judaïsme, mais tu as totalement raison que c'était comme ça dans pratiquement toutes les civilisations antiques. Naron, cette dimension que quand on mange de la viande, c'est pour une offrande au Dieu. C'est-à-dire qu'on comprend que manger de la viande, ça demande une élévation spirituelle. Et donc, je reviens à ce que disait le Rav Yehuda, que lorsqu'on prend une carotte du sol, eh bien, elle sait que quoi qu'il arrive, cette carotte, elle sait qu'elle va s'élever. Qu'elle soit mangée par un âne, eh bien, elle passera du stade de végétal au stade d'animal, ou qu'elle soit mangée par un homme dans un gefilte fish. Ou à ce moment-là, Bichlal, elle arrive à une dimension extraordinaire. Donc, elle est contente parce que quoi qu'il arrive, elle s'élève. Mais la vache qui arrive sur l'abattoir, elle ne sait pas par qui elle va être mangée. Si elle savait qu'elle était mangée que par des tzadikim, peut-être qu'elle dirait « Ok, vas-y, c'est par là ». Mais elle ne sait pas, peut-être qu'elle va être mangée stam par un mec qui va aller, je sais pas moi. Je porte ici, c'est pas un coup de gueule, c'est une réflexion. Quand on voit en Chutz La'aretz que, mais c'est une vraie réflexion, et je viens pas remettre, je veux pas mettre de l'eau sur le feu, de l'huile sur le feu, d'autant plus que c'est en ce moment très très problématique en France, le combat pour la Shrita, donc je suis pour qu'on continue la Shrita, évidemment. Mais je me voudrais poser une question, parce que ce que je suis en train d'essayer de dire, et je vais le développer, c'est que pour pouvoir manger un animal, il faut être élevé. Parce que ce n'est pas Stam qu'on prend la vie d'un animal. Le problème, c'est que aujourd'hui, quand on va en Chutz Laaretz, c'est qu'on va faire des shritot, qu'on va faire des abattages rituels, pour de mauvaises raisons, et là j'appuie, pour de mauvaises raisons de frilosité halakhique, qu'il y a, je ne sais pas, 40 ans, je ne veux pas donner de chiffres exacts, peut-être c'est plus, peut-être c'est moins, mais il y a 40 ans, il y a des rabbins, des dayanim en France et ailleurs, qui ont dit, on ne sait pas bien enlever le nerf sciatique, donc, comme on n'a pas le droit de manger le nerf sciatique dans le judaïsme, et qu'on ne sait pas bien l'enlever, alors, on ne s'en occupe pas. Et donc, toutes les parties inférieures de la bête sont pas cachères. Ce qui est complètement absurde, mais absurde. Le Rav Guetz, tu parles du Rav Guetz, le Rav Meir Yehuda Guetz, ne mangeait de la viande que le Shabbat. J'arrive à ça. 2 secondes. Ok, tu le gardes, 2 secondes. Le Rav Guetz, on y revient. C'est pas le seul d'ailleurs. Je reviens sur mon histoire. Donc ça veut dire que, à partir du moment où on a décidé que la moitié de la bête, elle n'était pas consommable au niveau kashrout, donc tu la vends chez les goyim. Ah bon? Et ça te dérange pas, toi? Que donc il y ait des gens qui vont stam se faire un burger chez Quick? Ils se mangent une bête qui a peut-être été shritée, mais qui va la manger sans aucune élévation spirituelle. Qui va stam croquer dans le burger parce qu'il a faim. Ou même pas parce qu'il a faim, parce qu'il est gourmand, il veut s'empiffrer. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Tu as fait une bracha sur la shrita. C'est-à-dire que tu as. Penser que cet animal devait servir à quelque chose de grand, à sanctifier le nom de Dieu, et parce que tu es frileux au niveau halakhique, eh bien la moitié de l'animal, tu le donnes en pâture, mamash kacha, à des gens chez Lo Yodim et Hashem, qui ne connaissent pas Dieu, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème moral, ce n'est pas un problème halakhique, c'est un problème moral. Mais bon, je ferme la parenthèse, je pense qu'il est temps que les rabbins en Chutz La'aretz prennent leur courage à deux mains et décident que si en Israël, le grand rabbinat, il a dit qu'on était tout à fait capable de faire ce qu'on appelle le nikour, sortir le nerf sciatique, eh bien, il n'y a aucune raison que les shochatim en France, ils n'apprennent pas. Point. Mais je referme la parenthèse. Ce qui veut dire donc que quand tu manges un animal, tu l'élèves. Et j'en veux pour preuve l'histoire qui nous est mentionnée dans le livre de Melachim. Dans le livre de Melachim, ne vous inquiétez pas, on va revenir à la paracha un jour, oulala! Dans le livre de Melachim, on a le duel entre Eliyahu, un Navi, Béar Carmel, sur le mont Carmel, qui va lancer un défi aux 400 prophètes, genre, de Baal. Il dit, bon, demain, on va savoir de qui de vous, de moi, est le vrai serviteur du vrai Dieu. On fait chacun un autel. Vous, vous emmenez demain un sacrifice, moi aussi. On verra sur quel autel le feu descend et prend la bête. Le lendemain arrive, grosse ambiance, et donc on amène deux vaches. Il y avait deux bœufs. Et le problème, c'est que le bœuf de Eliaou, il est bien, il y va, pas de problème, il sait ce qui va lui arriver, mais il y va. Et la Torah nous dit que le par que Eliaou a donné au Baal ne veut pas y aller. Bah, c'est qu'il lui a donné, alors il ne veut pas y aller. Les mecs de Baal, ils se disent. Donc. Comme il voit que celui d'Eliaou, il marche très bien, il dit, bon, tu veux pas aller lui parler à notre... Le Midrash, il dit, tu veux pas aller lui parler à notre vache? Alors, il y va. Il dit, Makara Hamouda. Oh, Hamoud, c'est un mâle. Il dit, et le bœuf, le taureau, il dit, c'est pas juste. Tu vois, mon frère, on est frangins. On a grandi ensemble, on a mangé dans le même truc à manger, on était dans la même ferme, on a tout fait ensemble. Lui, il va être corban la Hachem, et moi je vais servir à l'idolâtrie. La Makara. De là, tu vois que celui qui sait qu'il va servir Dieu, il y va, mais kef. Bon, alors Eliaou, il a dit Altidag, de la même façon que lui, il va servir à dévoiler Dieu, toi, par le fait que tu vas être shrité, mais que le feu, il ne va pas descendre, toi aussi, tu vas servir à dévoiler Dieu. Finalement, tout le monde dira Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Ça répond d'ailleurs à une question des années 90, une question fondamentale à laquelle on n'a jamais répondu. Dans les pubs qu'on avait en France pour ce fromage qui s'appelait la vache qui rit, eh bien, dans les pubs, on disait la vache qui rit, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Eh bien, moi, je sais pourquoi. Parce que c'est une vache qui veut aller en tant que corban. Ah là oui! Mais en fait, c'est de ça qu'on parle. Quelqu'un qui serait en train de vouloir stam se faire un steak, dans le livre de Vayikra, on te dit c'est interdit. Parce que la viande ne peut être consommable que si c'est Bigdoucha. Quand tu n'es pas au Beth Amikdash, c'est l'eau Bigdoucha. Il va falloir attendre le livre de Dvarim. Dans le livre de Dvarim, la Torah va nous dire qui arrive Hashem et Gevulecha, tu vas rentrer en Israël et tu vas conquérir toute la terre d'Israël. Et donc tu seras loin du Beth Amikdash. Le mec, il habite dans le nord du doigt de la Galilée. Il habite à, je sais pas moi, il habite à Kiryat Shmona. Et il ne peut pas, à chaque fois qu'il veut se faire un steak, aller l'emmener en tant que Korban Shlamim au Beth Amikdash. Donc à ce moment-là, la Torah nous permet. Mais quoi? Alors ça veut dire qu'on a le droit maintenant de manger n'importe comment? Non! Pas n'importe comment! C'est en se rattachant à la Kdusha de Eretz Israël. Et c'est pour ça que le Talmud, dans le traité de Houlin, va nous dire que, viens, Mikdash, on met ça de côté. Mais Stam, à partir du moment où on a permis de manger en Eretz Israël de la viande, eh bien le Talmud va dire, oui, mais attention, Ama Aretz, Asur lo le'echol basar. Que Ama Aretz, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire quand il mange cette viande, qui ne saurait pas l'élever, Asur lo le'echol basar. Ben oui, parce qu'il ne va pas être plus élevé que lui-même une vache, donc il n'y a pas de raison qu'il mange une vache. Il dit à Gmara, sauf Shabbat. Shabbat, il a le droit, même s'il n'y connaît rien. Parce que Shabbat, yesh neshama yetera. Et donc, cette neshama en plus du Shabbat, elle comprend. Alors, c'est beseder. Beaucoup de Mekoubalim ont justement pris sur eux de ne manger de la viande que le Shabbat. Pourquoi ils mangeaient de la viande Shabbat? Pour Mitzvat Onek Shabbat, que la simcha, elle vient avec la viande et le vin. Mais dans la semaine, ils ne mangeaient pas de viande. Mais pas parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de l'élever. Bien sûr que les Mekoubalim, et le Rav Getz dont tu parles, c'est évidemment Rosh Yeshivat HaMekoubalim, évidemment qu'ils étaient capables d'élever cela, mais ils décidaient que leur âme devait également corriger cette volonté de verser le sang. Ne pas penser qu'on est déjà arrivé à un monde sans viande, donc le Shabbat, y mangeait, mais pas le reste de la semaine. D'ailleurs, entre parenthèses, si déjà tu as ramené le Rav Getz, quand il était en train d'étudier en Tunisie, c'est tunisien, il est arrivé dans ses études au moment où on voit que bah, pour qu'une viande elle soit cachère, d'après le Shulchan Aruch, il faut qu'elle soit halak. C'est-à-dire que bah, lorsqu'on a fait la shrita, on passe la main à l'intérieur pour passer sur la paroi des poumons pour voir est-ce que c'est lisse ou est-ce qu'il y a une brisure, machin. Si c'est une brisure, mais c'est pas cachère. Nous dit le Shulchan Aruch qu'on est obligé de vérifier que si c'est pas halak, c'est pas cachère. Les Ashkenazim ne sont pas aussi stricts. Ils disent qu'on n'est pas obligé de vérifier. Que si la shrita est bonne, qu'on a juste vérifié l'endroit où on a coupé, que c'est bien lisse, alors c'est pas la peine d'aller vérifier plus loin. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de manger quelque chose qui n'est pas halak. C'est juste qu'on n'est pas obligé d'aller vérifier. Le Rav Getz, il voit ça dans le Shulchan Aruch et il dit, Rabotenu, Rabotai, on mange taref. Pourquoi? Parce qu'en Tunisie, on n'avait pas l'habitude de vérifier tout le temps halak. Et donc il dit, on ne mange pas kasher. Et ses rabbins, ils lui ont dit, pop, 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 calme-toi, mon ami. Certes, Rabbi Yosef Karo, il dit qu'il faut vérifier. Mais dis-moi, avant Rabbi Yosef Karo, on ne mangeait pas de viande. Donc lui, il a dit qu'il fallait vérifier, mais nous, on ne pense pas. Et depuis des générations, comme ça qu'on fait la halakha. Et donc, ce n'est pas vrai que tous les sfaradim, ils mangent halak. Ça dépend de chacun son minhag. Quoi qu'il en soit, hein. Vous comprenez maintenant pourquoi il y avait des gens qui mangeaient que le Shabbat ou des gens qui, bichlal, pour manger de la viande, devaient s'élever à un certain niveau. Alors vous allez me dire, ouais, mais aujourd'hui, tout le monde mange de la viande. C'est-à-dire, à toi d'étudier, et que quand tu te manges ton steak, ton entrecôte, ce ne soit pas juste pour te faire péter le ventre, comme on dit, mais que ce soit également Aliyah Bikdusha. Et c'est pour ça que le meilleur moment pour manger cette viande, c'est Seudat Mitzvah. En fait, la Seouda est une mitzvah. Shabbat, évidemment, Yom Tov. Et quand tu vas décider de mettre en place une Seoudat mitzvah, comme avec mon fils, avec mon Sioum. Mais c'est de cela qu'on parle, Rabotai. Parce que manger de la viande, c'est élever le niveau de l'animal au niveau de l'homme. C'est-à-dire, maintenant, le steak est devenu un Dvar Torah. Puisque grâce à la viande que j'ai mangée, ça m'a donné de l'énergie, qui fait maintenant partie intégrante de moi. Et grâce à cela, eh bien, je peux maintenant enseigner la Torah. Ashrei Astek, qui est devenu un Dvar Torah. Azéafé Meod. Lorsque Bichlal, je me fais un menu avec burger, frites et coca, ou de l'eau, pour les gens qui veulent être un petit peu plus baris, eh bien, je me fais un combo. Puisque j'élève, en fait, toute la Metsiout. Avec mon eau, mon coca, j'élève le minéral. Avec mes frites, j'élève le végétal. Et avec mon burger, j'élève l'animal. C'est pas humoristique. Je vous vois venir, je vous vois en train de rigoler. Non, mais attends, il est en train de nous dire pourquoi c'est bien de manger un fast-food. On s'en fout. Fais-toi une entrecôte d'un grand chef. Je m'en fiche. Comprenez bien que manger, c'est kodesh kodashim. C'est ma mâche kacha. Faut bien comprendre cela. On a lu il y a une semaine, même pas, la Megillah de Ruth. Et là-bas, dans la Megillah de Ruth, on nous dit la chose suivante. À propos de Boaz, qui était le Gdol Ador, le grand de sa génération. On nous dit la chose suivante. Vous savez, Boaz, donc c'est le moment de la récolte, de la moisson. Et donc, comme il ne peut pas tout faire en une journée, bah, le soir, il reste dormir dans son champ pour vérifier qu'il n'y a pas de brigands qui viennent lui voler sa récolte. Et donc, on nous dit là-bas, Vayochal Boaz Vayesht. Boaz a mangé, il a bu. Vayitav Libo, il a kiffé. Vayelech Lishon al Tse Aarema. Et il a été dormir à côté des épis de blé. Nos sages dans le Talmud vont nous dire, oui, il a mangé un petit peu, il a bu un petit peu. Et ensuite, il a été dormir un petit peu. Non, c'est vrai. Vayitav Libo, il a fait des divrei Torah. Vayitav Libo, on nous dit Chazal, Bédivré Torah. Et après, il a dormi un petit peu. Le Rav Kook, Meshmonek Kvatzim, nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a mangé, il a bu, et il a kiffé Bédivré Torah. Il n'y a pas marqué dans le Passouk, Bédivré Torah. Il y a juste marqué Vayitav Libo. Il a kiffé. Le Rav Kook nous dit, bien sûr qu'il y avait là-bas des Divré Torah. C'était quoi les Divré Torah de Boaz? C'était quand Boaz y mangeait et quand Boaz y buvait. Quand Boaz y mange et quand Boaz y boit, c'est un Dvar Torah. Tu n'as pas besoin de dire un Dvar Torah quand tu es quelqu'un qui mange Big Dusha. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle dans la table du Rav Tzvi ou d'Akouk, il n'y avait pas de Divrei Torah autour de la table de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que tu penses que la valeur de ce repas, c'est à cause des Divrei Torah que tu as dit. La valeur du repas de Shabbat, c'est le repas de Shabbat. La grandeur de ce repas, c'est le repas. Et oui, c'est un niveau, tout ça. Et c'est tout ça que demande l'Ebné Israël. L'Ebné Israël, dans la paracha, nous disent « Miya achilenu basar !» Mais d'après ce qu'on vient de dire, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je te rassure, hein, ils voulaient de la viande cachère, Chalak Bet Yosef, Arav Marpoud, Arav Landot, ce que tu veux. Hein. Alors, c'était des religieux, les gens. Pourquoi Moshe il le prend si mal? À tel point qu'il dit « Ah, ils veulent de la viande, je ne sais pas gérer, tue-moi » Tue-moi, ça va bien, oui. Quand il y a eu le Vaudor qui est quand même de l'idolâtrie, qui est quand même sacrément plus grave que de demander de la viande cachère, t'as pas dit « tue-moi » Là maintenant tu dis « tue-moi, même Makara ». Makaracha. Ils avaient de la manne. Tu pouvais avoir goût viande, ce que tu veux. Tu reçois du pain d'un Kadosh Baruch Hu direct. Et toi, tu demandes de la viande? C'est pas un peu chutzpadi? T'es pas un peu un chutzpan de dire ça, franchement. Surtout que ça s'accompagne, mais ça c'est un classique, hein. Ça s'accompagne toujours de « On se souvient comment on était en Égypte, et en Égypte, eh ben, on mangeait bien !» Chutzpan. Tu veux de la viande, hein? Mais tu es en train de manger le pain de Dieu, tu veux de la... Zechutzpa. Zechutzpa, Moshe, il ne peut pas gérer. Moshe, son boulot, c'est d'être Rabbeinu. Moshe ou Rabbeinu? Ou Arav? Arav, vous met la mettre Torah. Le problème, c'est que dans la halakha, pour... enfin, pas que dans la halakha, même dans la réflexion de base, pour enseigner et pour étudier la Torah, il faut une qualité qui s'appelle bochet panim. En français, un peu d'humilité. Si tu cours de Torah en disant « Je sais déjà tout !» tu n'as rien à apprendre, mon gars. Et si tu enseignes la Torah en disant « Je suis le meilleur », tu n'enseigneras rien non plus. C'est-à-dire bochet panim. Là où il y a de la chutzpah, il ne peut pas y avoir de la Torah. La chutzpah, c'est malchuta belataga, nous dit le Zohar. C'est malchut sans couronne. C'est genre, me dis pas ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire. On ne peut pas enseigner la Torah comme ça. On ne peut pas. Demander de la viande alors qu'il y a de la manne, c'est chutzpah. C'est lo assur, aval c'est chutzpah. Moshe ba chutzpah ou lo yachol. Ou lo matzliach, il n'y arrive pas. Quand ils ont transgressé, ils ont fait le veau d'or, c'est pas de la chutzpah, c'est de l'idolâtrie, de la vodazara. Ben, Moshe, il gère. Ils n'avaient pas à faire de bracha pour manger, ni après manger. Alors, l'Égypte, ils n'avaient pas à faire de bracha, tout simplement parce que les brachot n'existaient pas encore. Les brachot, je te rappelle, qu'elles ont été mises en place par nos sages. Donc, c'est normal qu'en Égypte, il n'y avait pas de bracha, ni avant, ni après. C'est-à-dire, alors, si tu demandes pourquoi on n'avait pas besoin de brachot à cette époque-là, tout simplement parce que notre connexion avec la source de vie, elle était telle que je n'ai pas besoin de dire que ça me vient de Dieu. Je sais que ça me vient de Dieu. C'est-à-dire ? Donc, ça pour revenir à mon histoire. Quand il y avait le veau d'or, Moshe, il a pris son calepin, il a pris sa Torah, il a dit « Ok, Avodazara, Khayaf Mita, Yalla, Yoshua, tu prends les Lévim, tu m'en tues 3000, on règle ça vite fait avant le repas. Hein. » Donc, il a géré. Là, il demandait de la viande. Il dit, tu vois, je ne peux pas. Je n'arriverai pas à gérer. Mais la question, c'est pourquoi ils ont été chutzpanim. Pourquoi les Bnei Israël ont demandé de la viande? Stam, taïve. Alors, on dit le texte. Je reprends le texte. Va'asafsou, va'cher bekirbo, itavu ta'ava. En français, ils ont voulu avoir envie. L'envie d'avoir envie. Je crois que c'était Johnny qui disait ça, non? L'envie d'avoir envie. Là, ils ont voulu avoir envie. Ah, c'est qu'ils ont pas vraiment, ils voulaient pas vraiment la viande. C'est-à-dire, ils s'en fichaient de la viande. Ils avaient le goût viande dans leur manne. Il n'y a aucun problème. Mais les Bnei Israël étaient arrivés à un dévoilement. Ils viennent de sortir de la mer Rouge. Je te le rappelle. Ils viennent de passer les 10 commandements, les gars. Ils viennent de passer tout le Sefer Vayikra. Ils viennent de voir l'inauguration du Mishkan, la Shrina. Tu crois que c'est des abrutis? Pas du tout. Pourquoi ils ont demandé de la viande? Pas parce qu'ils voulaient de la viande. Nous dit le Rav Kook, dans le livre Shmoné Kvatzim, on traduirait ça par les huit traités, dans le Kovetzret, dans le traité 8, au paragraphe 157. On dit le Rav Kook que les Bnei Israël avaient très bien compris que demander de la viande, c'était de la chutzpah. Mais ils voulaient d'afka pousser Moshe à être capable de les haïr betor à chutzpah. Ils voulaient pousser Moshe dans ses retranchements pour qu'il se dévoile être capable de dévoiler la gdusha qu'il y a également dans la chutzpah. Pas mal ça. Et d'où on sait que c'est ça qu'il voulait faire? Et est-ce que Moshe l'a compris? Oh, Veoder! Il l'a très bien compris. Non, vraiment! Comment je le sais? Je reprends la réponse de Moshe. Je reprends la réponse de Moshe. Nous dit Moshe, Slicha. Vayomer Moshe el Hashem, lama areot alav decha, pourquoi tu m'as fait ça? Lama lo matzati chen be'enecha? Quoi, j'ai pas trouvé grâce à tes yeux? La soumet à massa, kol ha'am hazeh alai? C'est moi qui dois gérer tout ce peuple. Anochi Erod Eriti et Amazet, Kola Amazet, c'est moi qui les ai mis au monde. C'est moi qui les ai portés, c'est moi qui les ai mis au monde. Kitomar Elai Sao Bechekecha, Kacha Issa Omen et Ayonek. Quoi, je dois les allaiter comme la maman, elle doit allaiter son fils. Mais Aïn Libassar, la tête, le Kola Amazet. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Réponse, d'où j'ai de la viande pour donner à tout le monde? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous dit Moshe, d'où j'ai de la viande? Alors, d'abord, entre parenthèses, il y en a plein de la viande. C'est-à-dire, n'oubliez pas que de tout un peuple qui a des troupeaux, en veux-tu, en voilà. Donc, si vraiment ils voulaient de la viande, ils avaient qu'à se faire un méchoui bien que à l'ancienne. Attention, attention, attention. Mais bien sûr qu'en Algérie, on savait enlever l'honneur sciatique, évidemment! Évidemment! Donc, je disais, s'ils voulaient vraiment manger de la viande, ils pouvaient se faire un méchoui avec un mouton qu'ils avaient chez eux. Donc, on voit bien qu'ils voulaient autre chose. Moshe continue. Alors, il dit à Dieu, mais je ne peux pas. Et là, Dieu lui dit, Vayomer Hashem el Moshe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Esfali. Esfali. Ramène-toi des gens, ramène, comment ça s'appelle? Esfali, Shivim Ish, Mizikne Israël, Asheradata, Kiem, Zikne Aham. Oh, bon, écoute, tu n'arrives pas à gérer tout seul. Prends 70 sages et je vais te délester un petit peu du travail. Mais là, Moshe, il continue. Moshe, il revient à la charge. Et il va dire, mais non, mais c'est pas ça le problème. Comment ça, c'est pas ça le problème? Il dit, non, mais c'est. J'ai pas. J'ai pas. Et Moshe va nous dire, alors certes, je retourne 2 secondes. Vayomer Moshe, c'est ça, verset Kafalef. Vayomer Moshe, Sheshmeot, Elef Ragli, Aham, Asher Anochi, Bekirbo. Ce sont 600 000. Vata, Amata, Basar, Eten, Laem. Vachlucho, Deshamim. Il faut leur donner à manger de la viande pendant un mois. Et là, regardez ce qu'il dit. Atson ou Abakar, Ishachet, Laem, ou Matsa, Laem. Im kol dege ayam, Yasef, Laem, ou Matsa, Laem. Moshe, il dit, c'est la preuve qu'il a tout à fait compris de quoi il en retournait. Moshe, il dit, mais attendez, comment tu veux que je leur donne à manger? Même si je prends tous les troupeaux possibles et imaginables et tous les poissons de la mer, j'aurai pas assez. Mais attends 2 secondes, temps mort, Moshe. Personne t'a demandé du poisson. Personne t'a demandé du poisson. On t'a jamais demandé du poisson. Pourquoi lui, il vient mettre les poissons dans l'histoire? Quel rapport? Vous savez qu'il y a une halakha, qu'on n'a pas le droit de manger de la viande avec du poisson. Assour. Lama assour. Mishum sakana. Il y a un danger. Alors le danger halakhique pur et simple, c'est quoi? C'est de dire, bah, tu ne vas pas faire attention parce qu'il y a les os de la viande, ça tu vas les voir et tu vas les enlever, mais donc tu ne vas pas faire attention forcément aux arêtes et donc bah, tu vas te coller une arête à la gorge et tu vas mourir. Sakana. Donc on mange la viande à part et le poisson à part. Il y a aussi un autre interdit d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de manger de la viande avec du lait. Vous le savez, l'autre vache le guédib. À cause de ces deux interdits qu'on n'a pas le droit de mélanger le poisson et la viande et le lait, est né un nouvel interdit qui est une erreur d'imprimerie, qui est donc un issour taout, mais bon, on ne va pas changer les minagim. Qu'on n'a pas le droit de manger non plus du poisson avec du lait. Et dans certaines communautés séfarades, ben on ne mange pas le poisson avec le lait. Pas de pizza au saumon. Et c'est bien dommage parce que c'est Al-Bassis Taout. C'est-à-dire qu'on a fait un mix des deux interdits dans la Halakha et on a sorti ça. Je veux dire, c'est marqué dans la Mishnah, dans Khoulin, que Kol HaBessarim Assurim Bechalav, toutes les viandes sont interdites avec le lait, Khoutz, sauf. Bessar dagim vechagavim, sauf la viande de poisson et la viande de sauterelle. Donc pizza aux sauterelles, kasher la mehadrine. Mais bon, on va pas changer les minagim du monde entier. Quoi qu'il en soit, pourquoi Moshe il parle de poisson là maintenant? On n'a pas de mélanger le poisson et la viande, mishum sakana, mais eze sakana. Pas tellement seulement le problème de l'arête. Il y a une sakana beaucoup plus profonde. On avait déjà certainement parlé de cela. Hein. Mais le repas de la fin des temps, le repas des tzadikim la'atid lavo, c'est lorsqu'il y aura eu le combat entre ce qu'on appelle le shor habar, le taureau sauvage, et le léviathan. Combat terrible entre ces deux animaux, et les deux vont s'auto-détruire l'un l'autre, alors que le taureau va le mordre à la jugulaire. Au même moment, le léviathan, avec un coup de nageoire, va le shriter, et les deux vont tomber raide mort sur le sol. Et à ce moment-là, les tzadikim vont descendre et vont se faire un buffet carpaccio sushi. Viande et poisson. Mais ça, c'est le repas de l'Ahati de Lavo. La sakana de mélanger le poisson et la viande et de penser que tu es déjà arrivé à cette dimension de l'Ahati de Lavo. Kolod, tant qu'on n'y est pas arrivé, C'est Messoukane de penser que tu y es déjà. C'est Messoukane d'être trop rapide. Moshe a très bien compris. C'est pour ça qu'il met les poissons dans l'histoire. Il a très bien compris ce que veulent les Bnei Israël. Les Bnei Israël veulent que Moshe soit capable d'enseigner dans la Chutzpah. Parce que les Bnei Israël, ils ont étudié la Gemara dans Maseret Sota qui te dit que Beikvot Meshicha Chutzpah Yazge, qu'à l'époque messianique, la Chutzpah, elle va jouer des heures sup. Regarde un peu comment l'État d'Israël a été créé, tu vas voir s'il n'y avait pas de la chutzpah à tous les coins de rue. Demande à un bon Français qui a fait son aliyah il n'y a pas longtemps si les Israéliens ils sont pas chutzpanim. Non? Pas chout. Moshe comprend très bien. Il comprend que les Bnei Israël demandent de lui d'être capable d'être déjà le Mashiach. Car le Mashiach, lui, il n'a pas du tout peur de la chutzpah. Lui, il gère totalement la chutzpah, puisqu'il vient de là-bas. Comment ça, il vient de là-bas? Eh bien, le Mashiach, il vient de Moab. Il vient de David, qui lui-même vient de Ruth. Et Ruth, elle vient de Moab. Et Moab, il s'appelle comme ça parce que la fille de Lot a couché avec son père et qu'elle l'a dit à tout le monde. Elle a appelé son fils Moab, Moab, de papa. C'est chutzpah. Non seulement elle a fait un truc de pas beau, mais elle le dit à tout le monde. C'est chutzpah. Un Mashiach, il vient de la chutzpah. Donc, il la gère. Il n'a pas peur de cette chutzpah. Au contraire, cette chutzpah, elle lui permet de dévoiler la Kedusha qu'il y a non seulement dans le Kodesh, mais également dans la nature. Voilà ce que les Bnei Israël ont demandé à Moshe. Et Moshe a dit, je ne suis pas capable. Je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas y arriver. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, lorsque Dieu lui dit, bon, bah, tu sais quoi, tu peux pas, eh bien alors, délègue un peu à 70 personnes. Et donc, Moshe, il va déléguer. Et il va donner le mot de passe du Wi-Fi, connexion avec Dieu, à 70 personnes. Seulement, on dit la Torah, il y a deux mecs qui ont piraté le Wi-Fi. Ils s'appelaient Eldad ou Medad. Eldad ou Medad mitnabim bamachane. C'est une prophétie piratée. Oy va voy. Eh oui, prophétie piratée. Et attends, et qu'est-ce qu'ils disent, Eldad ou Medad? C'est quoi leur prophétie? Ben, tout simplement, ils ont dit deux choses. Nibou aliske Gog ou Magog. Ils ont parlé de la névoa de Gog ou Magog, la guerre du Mashiach. Et ils ont dit, Moshe met de Yoshua Machnis. Ils ont dit, Moshe va mourir et c'est Yoshua qui va nous faire rentrer en Israël. En d'autres termes, ils ont prophétisé là où Moshe ne pouvait pas aller et donc là où son successeur, le Mashiach, devrait prendre la relève. Eldad ou Medad sont la névoile que Moshe n'atteint pas. D'ailleurs, entre parenthèses, Eldad ou Medad, vous savez qui c'est? C'est les demi-frères de Moshe. Oui, vous vous rappelez, il y a longtemps, il y avait un mec qui s'appelait Pharaon, il avait fait un décret comme quoi il fallait tuer tous les enfants juifs, garçons. À ce moment-là, Amram, qui était le chef du peuple juif, il a décidé de répudier sa femme. De divorcer de chez Yochevet pour montrer l'exemple et qu'on ne fait plus de bébés. Yochevet, elle a dit, je suis pas d'accord. Mais c'est quoi cette histoire? N'importe quoi. Bon, il l'a divorcé, mais elle a dit, mais il est hors de question d'arrêter de faire des petits bébés juifs. Donc, elle a été se marier avec un autre garçon qui s'appelait Elitsafan Ben Parnar. Et Elitsafan, dans la Mishpacha de Uziel, eh bien, avec Yochevet, ils ont eu deux fils qui s'appellent Eldad ou Medad. Seulement, après coup, tu comprends, Myriam, elle est venue voir Amram, elle a dit, papa, t'es pire que Pharaon. Pharaon, il voulait tuer que les garçons. Toi, à cause de ce que t'as fait, tu condamnes également les filles. Et là, papa Amram, il a dit, bah, peut-être que t'as raison, mais je sais pas. Tu crois que je peux rappeler maman? Elle a dit, bah, allez, j'ai toujours son numéro, moi, allez, rappelle-la. Et là, à ce moment-là, Amram rappelle Yocheved. Il dit, écoute, chérie, peut-être qu'on a fait une bêtise. Je m'excuse. J'ai compris, il faut que tu reviennes. Et là, Yocheved, elle dit, d'accord, elle divorce d'Elitsafan, elle se remarie avec Amram, et de là va naître Moshe. Et là, tu me dis quoi? Et là, tu me dis quoi? Eh bien, tu me dis, mais c'est assourd! On n'a pas le droit, d'après la halakha, une fois qu'on a divorcé et que la femme s'est remariée avec quelqu'un d'autre et qu'elle redivorce, tu ne peux pas ramener ta femme, c'est pas possible, assourd! D'accord, assourd. Et si quelqu'un ferait ça, alors l'enfant qui naîtrait, il est, oui, Mamzer. Donc, ça veut dire que d'après la Torah de Moshe, Moshe, il ne devrait pas naître. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin de passer par cette histoire-là. Je te rappelle que Amram, c'est le neveu de Yocheved. Ça fait partie des Issouré à Rayot. Ça fait partie des interdits, des relations interdites. Hein. Donc, ouais, d'après la Torah, Moshe, il est mamzer. Mais t'inquiète, c'était avant le don de la Torah. Mais ça montre qu'il y a une dimension où Moshe n'arrive pas. Et cette dimension, elle est dévoilée par Eldad ou Medad. Manger des bébés animaux, c'est inadmissible. Quel rapport là maintenant? À quel moment on a parlé de manger des bébés animaux? Faut juste que tu me dises à quoi tu fais référence. Ok? Et après, je pourrais te répondre, mais là, je ne sais pas vraiment à quoi tu fais référence. Mais Kitso, donc ça veut dire qu'il y a une dimension qui est celle de la dimension messianique où Moshe n'arrive pas. Et Moshe le comprend très bien. Et c'est ça tout son problème. C'est pour ça qu'il dit à Dieu, écoute, tue-moi, amène le Mashiach. Amène le Mashiach, moi j'y arrive pas. Moi j'y arrive pas, donc amène le Mashiach et puis on n'en parle plus. Là, Kadosh Baruch Hu, il dit, Altidag, Zeodiavo, ça viendra. Et tu sais quoi? Au moment où ça viendra, tu comprendras. Comment? Parce que tout le peuple juif arrivera à un niveau de dévoilement où tous seront prophètes. C'est ce que Moshe va dire lorsque Eldad ou Medad mitnabim mamachane, il y a le jeune, Chazan nous dit c'est son fils qui vient dire ah mitnabim mamachane. Et Moshe il répond amekane atali ou mi ten kol amashem nevim. Viendra un jour où tout le peuple juif sera prophète. En fait, Moshe Rabbeinu fait référence au verset du prophète Yoël, où Yoël nous dit que viendra un jour où tout Eshpoch et Drouri Alkol Basar, où toutes les créatures, tous les êtres humains, tout le monde sera prophète. Mais attention. Lo Yavo Bikal Hashem. Non mais encore une fois, Jonathan, je te rappelle que Moshe est Mamzer d'après la Torah. Mais sauf que tout ça, ça s'est passé avant la Torah. Donc avant la Torah, c'est pas interdit. Donc non, il n'est pas Mamzer. Puisqu'il vient d'une union qui est interdite par la Torah, mais cette union, elle a eu lieu avant la Torah. Donc c'est Bessader, Altidag. Altidag, Moshe ou Bessader. Seulement, Mazelo Yavo Bika Al-Hashem, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se marier avec une juive. Il n'empêche, même s'il aurait pu, puisque comme je te dis, encore une fois, ça s'est passé avant le don de la Torah. Mais n'empêche que Moshe, il ne s'est pas marié avec une juive. Donc même là, ça marche. Quoi qu'il en soit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au final, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis trop faible comme explication avant la Torah? Lama. Et le fait que le Mashiach vienne de Yehuda et Tamar, et que ce soit un Yiboum qui est interdit d'après la Torah. Puisque d'après la Torah, le Yiboum, c'est qu'avec le frère. Et là, on parle du père qui fait le Yiboum. Mais on te dit quoi? L'Ifne Matan Torah. Le Rambam, il ouvre comme ça, il rote sur Ebiya. Non mais, je veux bien avoir plus d'un tour dans ma poche. Mais je ne vois pas en quoi ce n'est pas un argument de dire c'est avant le don de la Torah. C'est avant le don de la Torah, donc ce n'est pas interdit. De la même façon que quand tu as parlé de Nadav et Avihu qui sont morts dans le Kodesh HaKodashim parce qu'ils sont rentrés, Shtouye Yain et tout ça. Mais toutes ces choses-là ne sont pas encore interdites à l'époque où Nadav et Avihu rentrent. Donc ce n'est pas sourd. Ça sera interdit plus tard. Donc, oui, Zebeseder de dire, c'était avant le don de la Torah. Et alors, les Avot faisaient la Torah, mais Moshe, c'est un Av? Non. Nachon, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils faisaient toute la Torah. C'est tout. Pas les autres. Malasot. C'est-à-dire, le niveau des Avot, c'est le niveau des Avot. Le niveau des Banim, c'est pas le niveau des Avot. Malasot. Donc, quoi qu'il en soit, finalement, l'objectif, il est le suivant. Il est d'être capable, Bevo Azman, d'être tous à ce niveau où on peut dévoiler la Kedusha. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra tous aller au Bet HaMikdash et se faire un méga steak shlamim big dusha. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, pour l'instant qu'on n'a pas le Bet HaMikdash, eh bien, on peut se dire que quand on mange notre steak, quand on mange notre chulent, dafina, pkeila, ce que vous voulez, à Shabbat, ou quand on se fait une seudat mitzvah et qu'on profite d'un bon burger, eh bien, en fait, on fait pour l'instant de notre mieux pour continuer cette tradition d'élever toute la création vers HaKadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est véritablement le projet de notre génération de Yemot HaMashiach, des temps messianiques, qui nous permettront d'arriver à cette dimension de Kol Am Hashem Nevi'im. Et à ce moment-là, une fois que toute l'humanité se sera élevée, eh bien, il est fort à parier qu'à ce moment-là, le règne animal aussi s'élèvera. Et comme dit le Rav Kook dans Chazon HaTzimchonut VaShalom, quand les animaux parleront, alors on arrêtera de les manger. Parce qu'elles auront atteint un niveau où pour s'élever, elles n'auront plus besoin d'être un korban, plus besoin d'être un steak Big Doucha. Elles pourront s'élever toutes seules. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Je vois mal Amram revenir vers Yocheved. Eh bien, envoie un mail au Midrash Shmot Rabba et dis-lui que tu n'es pas content. Bien sûr! Avant le don de la Torah, ce n'est pas la Torah telle que nous on la connaît, bien sûr. Donc, désolé d'insister, mais Amram est revenu vers Yocheved. Man yechol lasot. Ça y est? Tav, Chazak o Baruch. Et à bientôt pour un nouveau repas.